entrée de Mbujimayi au Kasai Oriental. J'ai refusé totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs, mesdames et messieurs. Nous vous proposons ce nouveau numéro autour de la réparation des victimes de la guerre des six jours de Kisangani. Comme vous le savez, 65 millions de dollars américains, c'est le montant que l'Ouganda a versé comme première tranche sur les fonds des réparations fixés par la Cour internationale de justice. Certaines organisations de défense des droits de l'homme proposent une gestion collégiale et transparente de ces fonds afin d'assurer des réparations aussi bien individuelles que collectives. De son côté, le professeur Chibangu Kalala, un des anciens avocats ayant plaidé dans cette affaire, souhaite plutôt qu'il soit créé un fonds souverain pour des générations futures et non un fonds d'indemnisation des victimes. Alors selon vous, que faut-il faire? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiocapi.net et n'oubliez pas de commenter ce sujet sur notre page Facebook. Et déjà, vous êtes plus de 14 000 à avoir lu ce sujet et 1200 parmi vous l'ont commenté. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Jean-Claude Siala et Viviane Mounier-Nkana concourent à la production et à la réalisation de cette émission qui reçoit pour vous le professeur Chibangu Kalala qui est avec nous. Professeur, il faut encore bonjour.
Bonjour, Jean.
Merci de nous avoir honoré de cette présence dans ce studio pour éclairer un peu la lanterne des uns et des autres. Mais pour notre gouverne, est-ce que les montants de 65 millions ou 325 millions, c'était les montants qui étaient prévus après le plaidoirie que vous avez mené avec d'autres collègues?
Oui, cher Ngembo, merci. Je vois que je suis toujours tout le temps sollicité pour l'affaire Ouganda qui me colle à la peau.
Tout à fait, parce que vous avez été parmi les médiateurs, les négociateurs, parmi les premiers d'ailleurs.
Oui, merci beaucoup, cher Ngembo, et merci à tous les auditeurs de Radio Okapi qui suivent cette émission. Merci pour la confiance que vous avez toujours placée à moi pour animer des émissions avec vous. Eh bien,
325 millions.
Le montant. Le montant de réparation des guerres, parce que nous sommes dans le domaine des réparations des guerres. C'est une guerre qui a eu lieu dans notre pays. Il y a eu des dégâts, des dommages causés à notre pays par l'Ouganda, l'armée ougandaise. Et il faut réparer ces dommages. Et ce sont des dommages de guerre. C'est ça le qu'on se fait. Le montant fixé par la Cour internationale de justice est de 325 millions de dollars. Voilà. 65 millions, c'est une première tranche qui a été versé au gouvernement congolais depuis le 1er septembre, il y a à peine quelques semaines. Et c'est chaque année que l'Ouganda va verser sur une période de 5 ans ce montant pour couvrir totalement le montant de 325 millions de dollars.
Mais au départ, c'était pas 325 millions de dollars. Vous, les avocats, vous avez plaidé pour plus de 325 millions de dollars. Mais semble-t-il que faute de preuves, et la Cour a donné un montant forfaitaire.
Le procès a été gagné en 2005. Ce n'est pas cette année, c'est au mois de février. C'est en 2005 que sur le fond, la RDC a gagné le procès contre l'Ouganda. Mais on ne pouvait pas fixer le montant des dommages et intérêts à l'époque. Disons des réparations de guerre. La Cour a dit, allez négocier, Ouganda, RDC, allez négocier sur le plan diplomatique. Mettez-vous d'accord sur un montant. Mais si vous ne vous mettez pas d'accord, vous revenez ici, je veux fixer moi-même le montant. Mais l'Ouganda est condamné à payer une somme d'argent à la RDC pour réparer tous les dommages de guerre causés à la RDC. Bon, ça traînait, mais ce n'est que l'année dernière, parce qu'il y a eu échec des négociations.
Échec des négociations.
Tout à fait. Je plaidais l'affaire sur le fond jusqu'en 2005, pendant 5 ans. Et puis après 2005, j'ai continué le travail pour évaluer les dommages et chiffrer le montant qu'il fallait réclamer à l'Ouganda dans les 23 milliards de dollars. Bon, vous connaissez la suite.
23 milliards à 325 millions.
À la faute des preuves, vous l'avez dit, l'équipe qui est allée défendre n'avait pas d'épreuves pour justifier le montant qu'on réclamait. Bon, finalement.
Entre parenthèses, semble-t-il que vous aviez bloqué des preuves.
Non,
vous aviez des preuves que vous avez gardées chez vous à la maison.
Non, mais j'ai été victime. Je suis parmi les victimes. On va en parler.
Et vous avez même fait la prison.
Oui, bon. Bon, mais les preuves ont été données, mais je ne sais pas comment on les a exploitées. Mais toujours est-il que la cour a trouvé qu'il n'y avait pas. Il y avait quelques éléments, mais ce n'était pas suffisant. Mais la cour a fixé un montant forfaitaire en équité à 325 millions de dollars.
Alors maintenant qu'on y est, 65 millions comme première tranche, et déjà les voix s'élèvent, les syndicalistes des victimes donnent la voix pour dire, mais voilà, il faut bien répartir l'indemnisation, lister les victimes, mais j'imagine qu'il y a des victimes directes, et les familles qui ont été touchées par ces problèmes. Alors vous proposez un fonds souverain en lieu et place de fonds d'indemnisation. Mais alors des défenseurs des droits de l'homme, et ils réclament le fonds d'indemnisation. C'est-à-dire ces montants doivent être directement orientés vers ceux qui étaient victimes.
J'ai un point de vue différent, mais avant de commencer, il faut qu'on sache d'abord qui ont été victimes ou qui sont victimes de la guerre qui a été imposé à notre peuple, à notre pays, par l'Ouganda et le Rwanda aussi. Je vais donner d'abord des faits. C'est sur base de ces faits que nous avons gagné le procès en 2005. Premier fait, élément. Il y a eu la guerre, pas seulement qui s'en gagne.
Afdel est arrivé avec...
Nous sommes dans la guerre du RCD. Du RCD. Qui a commencé en 98 jusqu'en 2003. Il y a eu des champs de bataille à travers le pays. Je vous donne quelques faits. Sur le flanc occidental de notre pays, bon, sur la rivière Oubangui, Kabila Mouzé recrute 4000 jeunes soldats au départ d'ici de Kinshasa. Deux barges transportent 4000 au total, prennent le fleuve, ces deux barges, arrivent au niveau des Mobenzélé, bifurcation fleuve Congo-Ubangi, et ils prennent l'Ubangi pour remonter, aller jusqu'à vers Gemena, donc vers Libengue, etc., dans le sud Ubangi. Au milieu de la rivière Ubangi, il y a des combats. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai plaidé cela à la cour, dans ce de justice. Un major ougandais, voyant ces deux barges qui transportaient 4000 soldats, jeunes, commencent à tirer sur les barges. Et qu'est-ce qu'il fait, ce major, le Ketch, je vois encore son nom, parce que c'est dans les documents, parce que j'ai plaidé ça. Il tire, non pas devant les barges qui remontaient le Bangui, mais tire derrière les barges.
Oh.
Alors, les jeunes soldats qui étaient sur les barges constatent que, alors, c'est qu'ils sont encerclés, parce qu'on tire dans le dos, pas devant eux. Ils paniquent, ils sautent des barges,
sont à se sauver,
eh bien, tous se noient. 4000 morts. Je ne parle pas de 20, de 200 ou de 300.
Qui sont partis de Kinshasa.
4000 morts en une journée, noyés dans la rivière Ubangi. Comment vous allez indemniser ces gens-là? Vous faites quoi? Qui les connaît? Dans les plantations de café, entre Bumba et Lissala, il y a des plantations là-bas de café à l'époque. Les troupes ougandaises, du MLC et autres, tendent une embuscade là-bas. Les combats se clashent là-bas. Massacre des soldats congolais. Ils fuient, ils quittent Bumba, les plantations, ils refluent sur Lissala, pour rentrer à Kinshasa. Les soldats me disent, mais, parce que je vais donner des détails là-dessus, ils disent, nous avons laissé des soldats dans les marécages qui étaient embourbés. Est-ce que vous le savez? Non, ça fait les sauver, on l'a laissé, nous on fouillait, c'est terminé. Des centaines de morts, pas des milliers de morts. Comment vous allez réparer ça?
Toujours des faits commis par le gars.
Oui, mais bien sûr, ça fait. C'est dans les procès. À Beni, à Butembo, les soldats ougandais, parce qu'il n'y avait pas de prison pour arrêter, pour emprisonner les activistes des droits de l'homme qui protestaient, ils créent des puits, des trous dans le sol. Ces trous-là deviennent des prisons. Alors, on arrête Gérard Lungembo, c'est un activiste, on le jette dans le trou, dans le puits. Parce que c'est ça la prison.
Ça, c'est au niveau du Nord.
Oui, Beni Butembo, dans le procès. Ces gens qui ont souffert, torturés, qui ont souffert. Vous allez réparer ça comment?
Alors à Bukavu.
À Bukavu, à Kavumu, etc. Je vous donne un exemple de la ville d'Mbujimayi. C'était loin du champ de bataille. Mais les travailleurs de la MIBA, la société MIBA, sont des victimes indirectes, etc. Parce que nous avons tous vu ici à Kinshasa, Kabila Mouzé, on prend le diamant en Mbujimayi, produit par la sueur du front des travailleurs de la MIBA, l'argent, le diamant arrive ici à la BCDC, on vend le diamant publiquement, on prend l'argent...
Effort de guerre.
Effort de guerre. Ben, Kabila Mouzé prend l'argent, il l'amène là où il habitait, au palais de marbre, avec des valises, des devises dans les mains, pour financer la guerre. Conséquence, la MIBA s'est effondrée, les travailleurs sont morts de chômage, de maladie, les enfants non scolarisés, etc. Comment vous allez réparer ça? Bref, pour moi, c'est tout le peuple...
C'est pas une guerre simplement qui s'en gagne, mais il y a des préjudices qui ont été causés.
Mais c'est le peuple, c'est tout le peuple congolais qui a été victime de cette guerre. Tout le peuple congolais.
De 98 en 2003.
Tout le peuple congolais. La rupture de l'ordre civil, le chaos social, la rupture de l'ordre civil. Les enfants ne sont pas scolarisés partout. Des désordres à travers le pays. Nous avons été tous victimes. Et l'argent qui a été payé, qu'on a donné de 325 millions, c'est l'argent pour l'État congolais. Les victimes n'ont pas fait le procès.
Ce n'est pas simplement les victimes de Kisangani. Non. Ils n'ont pas fait le procès.
Mais moi, c'est l'État congolais. Moi, j'ai plaidé l'affaire de Kisangani. Vous pouvez aller dans les archives de
l'AE. C'est l'affaire entre l'État, entre deux États.
Entre
la RDC et l'Ouganda. C'était pas entre les victimes. Ce ne sont pas des victimes qui se sont...
Les victimes n'étaient pas là au procès. C'est l'État congolais. Les 325 millions de dollars sont donnés à l'État congolais. Donc il appartient à l'État congolais de gérer cet argent dans l'intérêt du peuple congolais.
C'est pourquoi vous avez proposé un fonds souverain.
Et c'est la raison pour laquelle je propose... Je ne propose pas. Bon. Moi,
vous souhaitez, vous pensez,
nous
que
réfléchissons.
Nous réfléchissons ensemble.
Nous réfléchissons ensemble. Nous sommes sous un arbre. Nous sommes en train d'échanger des réflexions sur le sujet. Je ne fais pas de propositions.
Fonds souverain et non un fonds d'indemnisation.
Il faut un fonds souverain. Pourquoi un fonds souverain?
Qui veut dire quoi concrètement?
Je vais vous expliquer. Pourquoi un fonds souverain? J'ai le Kimbo. Il y a des exemples dans le monde. Il y a quelques temps, j'étais en Italie. Je suis allé à Milan, visiter la cathédrale de Milan. On appelle le Dôme de Milan. Je n'ai jamais vu un beau bâtiment comme celui-là. Voyez-vous, la cathédrale de Milan. Il y a un organisme qui gère cette cathédrale depuis le 14e siècle.
Depuis le 14e siècle.
1387. 14e siècle. Véneranda
pas de l'organisme public.
Véneranda de le Dôme. Donc la Véneranda de la cathédrale de Milan. Qui gère un bâtiment depuis plus de presque 7 siècles aujourd'hui, 700 ans, qui est toujours là, la Véneranda. Et ce bâtiment est visité tous les ans par plus de 2 millions de touristes et qui ça rapporte de l'argent. Je ne veux pas aller seulement parler de la Véneranda. Si les Italiens ont fait ça, pourquoi les Congolais ne peuvent pas faire ça? Je vous donne l'exemple du fonds Okapi. Je ne sais pas
ce n'est pas l'État qui gère.
Non, c'est pas l'État qui gère. C'est un conseil d'administration autonome. Les membres sont désignés et qui gèrent.
Et qui sont payés ou ils font les bénévolats.
Du bénévolat, le salaire. Il y a quelques années, on avait l'idée, je suis sur Radio Okapi, de créer un fonds Okapi. Qu'est-ce que signifie ce fonds Okapi? La Banque mondiale disponibilise 30 millions de dollars. 30 millions de dollars. On prend ces 30 millions, on met sur un compte en banque à Londres. Ce compte bloqué produit des intérêts et ces intérêts sont utilisés pour financer nos parcs nationaux, les réserves de biosphère, les aires protégées, etc. Pour financer, parce qu'on ne va pas tout le temps aller chercher l'argent au trésor public. Je ne sais pas comment le gouvernement congolais a géré cette affaire-là, mais c'est un dossier que j'ai traité à un moment donné. Les exemples, nous avons le FPI, le Fonds de
Protection des Jeunes. D'ailleurs, le responsable de l'ICCN venait d'être limogé.
Voilà,
je ne sais pas si c'est à cause de cette gestion.
C'est exact. Nous avons le Fonds de Promotion de l'Industrie, FPI, bien connu. Mais ce fonds est financé par une taxe qui est perçue par la DGDA et les autres au niveau des douanes et réversée au FPI. Avec cet argent, le FPI fait des activités.
Pour finance
des projets, même des projets à caractère social. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je vais chuter maintenant sur le problème. Gérald Lungembo. Nous devons construire dans notre pays un État stratège. Un État intelligent. Un État géopoliticien. C'est une obligation collective. Nous devons, quand je dis l'état géopoliticien, ça signifie qu'il faut considérer l'état congolais comme un être vivant.
Tout à fait.
Qui naît, qui grandit et qui peut mourir. Et les géopoliticiens congolais, ses dirigeants, ont le défi à relever. Il faut que l'état congolais vive au moins 1000 ans. Minimum 1000 ans. Et il faut donc avoir un état stratège, géopoliticien. Ça signifie qu'il faut donner à notre état des moyens pour pouvoir protéger notre territoire, protéger notre pays, notre peuple, et être un état digne de ce nom. Il faut lui donner des ressources financières.
Alors vous proposez que cet argent...
Et donc il faut que ces 325 millions de dollars...
Donc il ne faut pas donner directement aux victimes directes.
Il ne faut pas aligner les gens en fil pour dire comment ça distribuer.
Mais le gouvernement avait déjà commencé une telle opération.
Il ne faut pas... Attends, je vais nuancer les choses. Il ne faut surtout pas faire ça. C'est tout le peuple qui a été victime. Il faut que cet argent soit géré par un fonds souverain. 325 millions, Jelungembo, je fais des calculs.
Oui.
Fais des calculs. Vous prenez cet argent-là, vous placez, faites un placement dans une banque, ou dans deux ou trois banques, vous négociez le taux d'intérêt, 8%, eh bien, chaque année, ce fonds va générer plus ou moins 20 millions de dollars. Chaque année. Vous répartissez sur 12 mois, vous avez presque 2 millions de dollars
par mois.
Vous comprenez? Et si ce fonds fonctionne, ce fonds peut fonctionner pendant 5, 6, 7 siècles.
Donc on peut faire des projets de développement.
Et ce fonds souverain peut faire beaucoup de projets.
On peut réparer des écoles à Kisangani, on peut réparer des écoles, on peut construire des écoles à Beni, on peut construire des écoles ça et là, donc ça pourrait aider quand même le pays.
Dans les camps militaires, les soldats ont payé un lourd tribut. On va dans un camp militaire, on trouve que le centre de santé qui est là n'est pas en bon état, il n'y a pas de maternité, les écoles des enfants des militaires ne sont pas bien. Eh bien, le fonds finance, on construit des très bonnes écoles qu'on met au standard moderne. On va dans toutes les provinces, on règle ce type de questions. Les hôpitaux, les centres de santé, les écoles, les projets à caractère social. Ce fonds peut fonctionner au lieu de consommer son capital, distribuant. Il faut conserver ce capital intact, le placer sur le marché financier. Ce fonds va produire des intérêts et ce sont ces intérêts que l'État congolais va utiliser pendant des années et des décennies pour financer le développement, financer les activités sociales, l'éducation, la santé et autre chose. Avec cet argent, on peut construire des monuments. Arrivé à Kisangani, on construit un monument collectif. Arrivé à Kisangani, on construit les écoles.
Pour des générations futures et ça restera gravé dans les annales.
Compte tenu de l'origine de cet argent, Jelungembo.
C'est l'argent des sangs.
C'est le sang du peuple congolais qui a connu. Et ça, l'argent ne peut pas disparaître comme ça dans des distributions stupides. Mais je vais terminer. Notre gouvernement a bien fait les choses. Il avait bien commencé. Le régime précédent ne l'avait pas fait. Ils ont envisagé de sortir 1 500 000 dollars pour pouvoir indemniser des victimes directes comme à Kisangani. On aurait déjà déboursé, peut-être que quelqu'un de Kisangani va interminer au cours de cette émission pour nous donner des informations plus précises, mais nous avons lu et appris que sur ce 1 500 000 dollars,
on aurait
déjà décaissé 450 000 dollars qu'on est allé distribuer à Kisangani. Et au moment de la distribution, bagarre généralisée. On a arrêté même des gens, des victimes ou les ayants droit qui ont été arrêtés et mis en prison parce qu'ils ont détourné.
Il y a eu des causes, etc.
On ne sait pas où c'est arrivé. L'État congolais peut régler ce problème des victimes directes avec le trésor public. Parce qu'ils avaient déjà commencé.
Tout à fait.
Ils peuvent poursuivre ce processus-là pour consoler. Jelungembo, on ne va pas ressusciter les 700 ou les 800 morts de la ville de Kisangani. Ceux qui étaient blessés, il n'y aura pas suffisamment d'argent pour régler ce problème-là, pour consoler les gens. On ne va pas réparer le tout. Ça ne pourrait être que des sommes symboliques. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que dans la ville de Kisangani, on puisse arriver...
Qu'il y ait des souvenirs.
Voilà.
Qu'on reste
et on reste des années. On va continuer à le faire.
Professeur, on va passer de l'autre côté du standard pour accueillir les auditeurs et recueillir aussi leur point de vue par rapport à ce que vous souhaitez dans l'avenir par rapport à la réparation des guerres. 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Ocapi Service.
Parole aux auditeurs.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Capi et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui reçoit pour vous, pour nous et pour l'ensemble d'internautes, professeur Tshibangu Kalala. Avec lui, nous parlons de cette réparation des guerres avec le premier montant versé par l'Ouganda autour de 65 millions de dollars américains sur le montant total de 325 millions de dollars. Fonds souverains. Fonds d'indemnisation, c'est les débats. Vous avez la parole, Kalo Kalonji. Vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur Gère, et bonjour au professeur Tshibangu Kalala, que j'ai la chance vraiment d'écouter bien et faire l'analyse de cette situation.
Quelle est votre contribution après avoir écouté le professeur?
Oui, je commence d'abord à féliciter le professeur Tshibangu Kalala parce qu'il maîtrise bien la situation. Parce que après son analyse et ce qu'il a fait comme commentaire, je me retrouve maintenant en face maintenant d'une situation réelle. J'aimerais dire ceci, M. Gér, ce qu'il a proposé, moi je suis d'accord, et vu ce qu'il a dit, je change ma façon de parler aujourd'hui. Je me retrouve devant Tshibangu Kalala qui n'est pas seulement juriste, mais je me vois en face d'un économiste avec ce qu'il a fait comme analyse par rapport à l'utilisation de ces fonds-là. Maintenant, là où il y a les problèmes aussi, j'aimerais seulement lui demander comment il trouve de créer ces fonds-là avec d'autres gestionnaires. Il ne voit pas que c'est alourdir d'abord les charges, parce que pour ce qui est de finances publiques, la gestion des finances publiques et la chose publique, les lois du pays ont déjà résolu ça. C'est-à-dire on connaît qu'il y a tel ministère qui doit passer par la gestion et même au niveau des décaissements. Et si aujourd'hui il cherche maintenant à créer, mais qu'est-ce qu'il dit maintenant de l'argent que les détourneurs donnent aussi, après avoir peut-être emprisonné, peut-être, ils donnent à la justice congolaise. Parce qu'il faut aussi voir cette dimension-là. Parce qu'il ne faut pas seulement voir la dimension internationale, mais au niveau local, au niveau national, nous avons des fonds comme ça qu'on donne à l'État. Mais nous n'avons jamais vu cette proposition-là. La manière dont on gère les fonds ici de la justice congolaise interne, moi je trouve que c'est de la même manière qu'on peut aussi gérer les fonds qui viennent de la situation comme la situation que nous avons. Maintenant je lui pose la question de savoir si aujourd'hui il ne veut pas qu'on puisse payer l'argent aux gens qui sont victimes parce que les décalages sont énormes effectivement, mais il a parlé de l'AMIBA. Je suis au Kasaï oriental. Ça m'a beaucoup vraiment énervé, M. Gér, parce que je vois comment nos amis de l'AMIBA souffrent aujourd'hui.
Tout à fait.
Je vous dis, l'AMIBA est par terre. Les gens là, je vous dis, il y en a des morts. Chaque jour ici, on meurt à des passants, même ceux-là qui sont à l'Est. Maintenant, si aujourd'hui, ils trouvent que maintenant, l'État congolais, le Premier ministre a parlé ici que nous, nous sommes venus donner quand même quelque chose
tout
en termes des arriérés que l'État congolais a envers l'AMIBA.
Oui, mais Kalo, il faut pas seulement citer l'AMIBA. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont contribué à l'effort des guerres. Je prends par exemple la SCPT qui venait de connaître au travers de son bâtiment un incendie et qui a fait des dégâts. Donc il y a pas mal de problèmes et des agents qui sont 150 mois d'impayement. Alors donc c'est des dégâts collatéraux. Ce sont des victimes indirectes.
Permettez-moi, je suis Kassaïen, je suis au Kassaï, j'ai dit ce que moi j'ai palpé. Les autres, je suis d'accord avec eux, mais je vous pose la question. Le Premier ministre a parlé, il est parti. Nous n'avons pas vu la réaction de ce qu'il a dit. Mais l'argent que l'État aussi donne à cette entreprise-là, moi je trouve que dans cet argent-là, l'AMIBA doit toucher les autres entreprises parce qu'ils sont victimes.
Si ils sont victimes.
Si on investit à l'AMIBA, dans les autres entreprises, ça sera aussi mieux
donc,
que ce qu'il a
voilà,
dit.
Donc si je comprends bien, Kalo, pour vous, vous appuyez ce que vient de dire le professeur. Il n'y a pas que des victimes directes parce qu'on ne saura pas réunir plus de 700 morts. On ne va pas les récupérer. Les blessés, ils sont là, oui, certes, mais ce que l'État avait commencé, il peut continuer, mais les fonds doivent être gérés de manière à le pérenniser pour des générations futures. Merci beaucoup, Kalo. Alors, Claudia, vous êtes à Colésie. Bonjour, Claudia. Claudia, vous êtes avec nous?
Oui.
Vous avez la parole. Quelle est votre contribution après avoir écouté les professeurs ainsi que votre prédécesseur, Kalo Kalongi?
En fait, ma préoccupation est de mon prédécesseur. En fait, nous avons suivi le professeur. Nous sommes tout à fait d'accord avec ses propositions. Et je voulais savoir s'il en a fait part au gouvernement. Mon inquiétude aussi concerne toujours la gestion des fonds, parce que nous connaissons, nous les Congolais, comment est-ce que nous gérons les fonds. En fait, on ne peut pas compter beaucoup sur l'IGF, parce que l'IGF, on dirait qu'il n'était pas convenablement son boulot.
Donc vous décriez également la manière de fonctionner de l'IGF. Oui, comme quelqu'un qui a réagi sur notre page Facebook, il dit mais où est l'IGF lorsqu'on parle encore de la corruption à la présidence de la République. Mais l'IGF qui d'ailleurs on va faire ce sujet sur ça.
Si on doit vraiment comptabiliser tout ce qu'il y a eu comme fonds dans notre pays qui a disparu comme ça dans la nature, on ne sait pas vraiment ce que l'IGF fait. Alors on ne peut pas compter sur l'IGF. Ma préoccupation concerne aussi en fait la gestion des fonds. Qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour que ces fonds puissent servir de ce dont il est destiné?
Au lieu de penser de payer ceux qui vont travailler dans les fonds, il faut faire quoi concrètement? C'est ça votre préoccupation?
Oui, en fait, les victimes, d'abord la guerre en question a eu lieu il y a 23 ans. Mm-hmm. Et parmi les victimes, il y a d'autres qui sont décédés, il y a des soldats qui étaient morts au combat et dont la famille a été délaissée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut rechercher ces enfants de soldats qui étaient décédés? Parce que, au fait, il y a de cela plusieurs années.
Il y a plusieurs années, il y a l'oubli, il y a également manque d'éléments. Mais le professeur qui a plaidé ces cas, il a tous les chiffres. Hein. Je crois que tout au long de cette émission, ceux qui nous suivent, ils vont se faire une idée très claire. Merci beaucoup, Claudia. Professeur, ça c'est une préoccupation quand même directe. Bah alors, Maître Edmond, on dit quand même, Maître Edmond, avant de prendre cette préoccupation directe, Edmond, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, Gérard, bonjour, professeur, tu vas en calme.
Vous avez la parole, Edmond.
Oui, bon, merci. Monsieur Gérard, je suis le professeur, et je suis content que je sois parmi le conseil qui ont défendu le pays contre l'Ouganda. Je pense que c'est une bonne chose. Je l'ai suivi lorsqu'il défendait sa thèse, notamment la proposition de la création des fonds. C'est une bonne chose. Et il a même approfondi pour dire que c'est un fonds qui peut être investi, placé dans une banque pour que ça puisse générer des bénéfices. Mais moi je pense que sous l'hypothèse des fonds, oui, il faut gérer un fonds, mais les fonds doivent être destinés à quoi? Parce que c'est cet argent, cette somme d'argent ou les fonds qui seront payés par l'Ouganda, c'est sur base d'un procès issu d'une hostilité et laquelle hostilité a créé des dégâts dans ces pays. Je pense que les stigmates de cette guerre contre où l'Ouganda a commis des vies ici dans les pays sont encore là, allés à Kisangani. Je pense que même vous avez abordé le problème des victimes. J'étais à Kisangani, j'ai vu comment les victimes, il y avait un fonds que le gouvernement était en train de partager aux victimes. J'étais à Kisangani, j'ai vu au parquet général comment les victimes. Les autres handicapés, les autres n'ont pas de mails, les autres n'ont pas de
mails. Ça finit par une bagarre généralisée là.
Pour réclamer l'argent qui a été détourné. Donc ça pose un problème. Les fonds, oui, mais les fonds là, pour moi, ça doit être destiné aux victimes de cette guerre-là.
Alors quand vous parlez des victimes, vous faites allusion aux victimes directes, simplement, ou également aux victimes indirectes que nous venons d'évoquer tout à l'heure avec les professeurs. Il y a eu des entreprises qui ont participé à l'effort de guerre et dont aujourd'hui qu'on connaisse les problèmes de trésorerie et les victimes au niveau des employés et même au niveau des militaires qu'on ne sait pas retracer. On a évoqué des cas de ceux qui sont morts dans la rivière Ubangi. Et voilà, donc il y a pas mal de victimes qui sont indirectes.
Oui, M. Jeffrey, je voulais dire. C'est-à-dire qu'on identifie les victimes. Il y a des victimes directes. Il y a ceux qui sont là.
23 ans après, comment?
À Kisangani, par exemple, et ailleurs, dans l'est du pays. Mais je pense qu'aussi, tenir compte des victimes indirectes, dans le sens que s'il y a des militaires qui ont été tués, qui ont perdu la vie, je pense que cet argent.
Il faut les identifier.
Le gouvernement à pouvoir, par exemple, reconstruire les camps militaires, construire les camps militaires, et faire des dotations militaires. Et moi, je pense que cet argent ne peut être destiné que aux différentes provinces qui ont été touchées. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas une caisse de péréquation. Il faut qu'on se le dise. C'est pas une caisse de péréquation où on doit prendre cet argent, on envoie à l'Équateur, on envoie au nord, Kivu. Non. Seulement les provinces qui ont été touchées et on essaie un peu de réaliser certains projets en faveur des victimes directes et indirectes. Mais moi, je pense que ce sujet d'investissement, c'est une idée qui peut être effacée parce que les problèmes des Congolais, l'homme congolais n'a pas cette moralité de blanc. Si c'était en Europe, vous pouvez comprendre cet argent.
Ça pourrait marcher.
Et ça peut générer des intérêts. Ici,
merci,
si on met
merci.
Banque, vous allez voir que si M. Tshisekedi n'est plus au pouvoir, c'est lui qui viendra après lui.
Il va changer le.
L'histoire ne va même pas être évoquée et l'argent sera dilapidé comme ça. Votre chef là ne va même pas. Ne sera même pas à mesure de pouvoir retracer
l'application de ces fonds. Donc, merci beaucoup, et Maître Edmond.
Aux victimes directes et indirectes.
Merci beaucoup, Maître Edmond. Alors, professeur, il y a eu des préoccupations directes, il y a d'autres aussi qui ont partagé votre point de vue.
Oui.
Alors, comment réagissez-vous?
Merci beaucoup. Je tiens à remercier Kalonji de Mbujimaï. Bonjour Kalonji, merci infiniment que vous me suivez. Et Claudia, notre maman Claudia de Lubumbashi, qui a soulevé aussi des questions. Merci beaucoup Claudia pour votre intervention. Je résume. Le problème, après ces interventions, la préoccupation, c'est de savoir mais comment on va gérer ce fonds-là. Comment ça va se faire concrètement? Bon. Ce fonds doit être géré par un organisme public. C'est de l'argent public. C'est de l'argent de l'État. Ce n'est pas l'argent des victimes. C'est l'argent de l'État congolais. Qui doit être géré. Il faut créer un organisme public. Un organisme public. Bon. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui sont dans le pessimisme. De croire que les Congolais sont des malhonnêtes, sont des gens incapables. Je crois que, Maître Edmond, il faut changer ça. Enfin, nous avons des gens de très grandes valeurs, de très grandes qualités dans notre pays. Si on les place dans des bonnes conditions, ils vont faire un travail extraordinaire. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans notre pays avec les régies financières. Qui pouvait imaginer il y a 2 ans ou 3 ans qu'on pouvait arriver à avoir un budget de 14 milliards de dollars? À peine même. Moi, j'étais au gouvernement pour avoir seulement 300 millions de dollars de recettes mensuelles, c'était terrible. On tournait autour de 250, 260 millions et avec des déficits mensuels. On voyait comment le ministre des Finances souffrait pour régler des déficits. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les 800 millions, 100 millions par mois de recettes. Et c'est des Congolais qui ont fait ce travail. Parce qu'il y a eu une autre gouvernance, une autre impulsion.
Un nouveau narratif.
Voyez-vous. Donc il faut faire attention. Il y a un autre récit politique contre notre pays. Il faut faire ça. Il faut, les exemples existent dans le monde entier. Ici, chez nous, il y en a aussi. Mais je vous ai parlé du fonds de promotion de l'industrie. Voilà, c'est un fonds, c'est un organisme public créé par l'État qui perçoit de l'argent venant des taxes. Et le FPI fait un travail excellent, aujourd'hui pour les gestionnaires. Bon. Il faut créer un organisme public. On va lui donner le nom. Ça c'est le gouvernement qui fera ce travail-là. Qui est un organisme autonome, qui a une autonomie financière, une autonomie administrative, Claudia, qui a sa propre personnalité juridique et qui gère de l'argent public. Ça faut autonome. Et cet organisme doit être placé sous un contrôle de l'État. Parce que l'argent public, il y a la Cour des comptes qui devrait voir comment l'argent, ce fonds de 325 millions, comment c'est géré. Monsieur, vous faites chaque année, vous faites quel est le programme que vous avez chaque année pour utiliser les intérêts qui sortent de cet argent. Le Parlement passe de l'argent public. Le Parlement peut envoyer des commissions d'enquête parlementaire, d'information. Monsieur, vous gérez un fonds de 325 millions de dollars.
Comment vous les gérez?
Comment vous les gérez? Quel est votre programme d'utilisation des intérêts générés par ce fonds pour cette année ici, etc. Donc, c'est un fonds qui aura un conseil d'administration, un personnel très réduit. On n'est pas là pour engager des gens, les refaire. Je vois par exemple, je vous ai l'exemple de la Vénéranda. Bon, c'est cette personne qui gère la Vénéranda de Milan. Donc c'est comme une fondation qui pourrait avoir 10 personnes ou 15 personnes, un secrétariat, etc. Mais qui gère de l'argent. C'est comme une banque. Le fonds là, il faut comprendre cela comme une banque. Nous avons un fonds important, 300 millions de dollars. On ne touche pas au capital. On ne prend rien sur les 300 millions de dollars, 325 millions. Cet argent est bloqué, placé dans les banques. Et comment ça peut se faire? Aujourd'hui, nous voyons la Banque centrale du Congo. Dit voilà, l'État congolais a besoin d'argent. La Banque centrale émet des bons du trésor. voyez-vous. Monsieur Kalonji, Madame Claudia, vous pouvez aller acheter vous-même des bons de trésor au là-bas. Vous achetez le bon à 1000 francs, par exemple, mais quand vous allez récupérer ce bon-là, vous avez par exemple 1500, vous gagnez 500 francs. Donc le fonds peut entrer sur le marché financier, placer cet argent-là auprès des banques. Ce fonds peut même prendre des participations dans certaines entreprises pour toucher des dividendes à la fin de chaque année, peut prendre des placements, etc., pour augmenter sa capacité d'intervention. Et ce fonds sera contrôlé, sa gestion, par notre Parlement, enquête parlementaire, démission, prouvement de compte, la Cour des comptes, l'IGF, l'Inspection générale des finances. C'est grâce au travail de l'IGF aujourd'hui, Madame Claudia, Maître Edmond, vous êtes pessimiste, qu'aujourd'hui, il y a une discipline, une rigueur qu'on constate dans les entreprises publiques qui généraient de l'argent. Et avec l'impulsion du président de la République, l'IGF fait un bon travail. Ce n'est pas parfait. Ce sont des hommes. Ce n'est pas parfait. C'est
l'IGF, un travail qui est fait par des humains. Donc
bien
ça
sûr,
peut
mais l'IGF ne gère pas l'argent. Mm-hmm. L'IGF contrôle, mais ne gère pas l'argent. Mais c'est un travail qu'il faut améliorer. Donc il faut ce fonds, Claudia, il faut créer un organisme public placé sous le contrôle de notre Parlement, avec les parlementaires qui peuvent aller enquêter pour voir comment vous gérez cet argent. Il y a la Cour des comptes qui doit vérifier également parce que c'est de l'argent de l'État. Il y a l'IGF qui peut également venir vérifier, etc., pour valider les choses. Et chaque année, ce fonds souverain peut faire des rapports annuels de sa gestion adressés au Parlement, adressés au gouvernement, pour qu'il y ait un contrôle citoyen. Et dans la gestion de ce fonds, ça dépend de l'État. Pour moi, il faut y mettre des représentants de la société civile, venus du monde de la société civile, pour qu'ils voient comment ce fonds est géré. Et ce fonds va avoir un programme d'activité pour financer la construction des écoles, financer la construction des camps militaires, par exemple, aider les militaires, aider notre société, voilà. Et sur l'ensemble du territoire. Voilà. On ne peut pas limiter cela à une seule province.
Des victimes directes. Non, non. Alors, professeur, on va prendre directement quelques-uns qui sont de Kisangani. Alors, ils vont nous faire peut-être des témoignages. Sylvain, Indji, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, la radio Capi.
Ben alors, semble-t-il que l'opération amorcée par le gouvernement a fini par une bagarre généralisée, hein, des victimes qui se sont rentrées dedans lorsque les listes, sur la liste, par exemple, il y avait même des fictifs. Est-ce que vous pouvez nous témoigner que finalement quelques victimes avaient perçu un peu d'argent dans l'opération initiée par le gouvernement?
Bon, ces histoires-là étaient passées avant que je n'y arrive, je n'y arrive ici. Hein.
Ok.
En tout cas, je n'ai pas
une idée sur ça. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ce que nous disons?
Bon, par rapport au fonds qui est déjà décaissé, nous saluons puisque nous voyons déjà que l'État congolais déjà commence déjà à récupérer quelque chose par rapport au préjudice subi. Et le préjudice subi, c'est conformément à l'article 1058 de notre du Code civil livre 3, qui prévoit que tout fait quelconque de l'autre qui cause le préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et nécessairement, nous avions été victimes, nous avions subi beaucoup de préjudices, et que la justice a fait son travail pour que nous soyons déjà réparés. Mais j'aimerais vous dire que les fonds sont affectés par rapport aux réparations des préjudices. DME, puisque la procédure qui est présentée par l'invité, en tout cas, s'apprécia. Dans le sens qu'il est en train de dire que ces fonds-là seront sévèrement contrôlés, l'IGF serait là, et on va contrôler à la loupe pour que ces fonds-là ne soient pas détournés. Puisque nous avons peur qu'en réalité, ces fonds-là ne seront pas affectés en rapport avec la
préoccupation. Le projet de développement,
la réparation des préjudices. Les victimes sont là. Les familles des victimes sont là et que ce sont ces gens-là qui sont maintenant obligés d'être maintenant réparés dans les préjudices subis. Donc, affecter ces fonds à d'autres finalités, à d'autres besoins, constituera pour nous ce que nous appelons le détournement, puisque ces faits-là sont prévus et punis par notre code pénal congolais. Donc nous aimerons que quelque chose ait déjà fait, puisque s'ils ne le faisaient pas, ils ne réparaient pas des préjudices tels qu'ils l'ont déjà causé, ça serait un sabotage.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, héritier, nous restons toujours à Kisangani. Héritier Wamenga, vous êtes avec nous à Kisangani. Bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis à Kisangani. Avant d'aborder le sujet, je me rappelle de ce jour-là, le 5 juillet, j'étais en deuxième CE à l'Institut Unikis. Tout a commencé comme de la blague. Et à fin, nous avons fait 6 jours dans la maison. Nous avons fait 6 jours sous le coup des bombes et le coup des armes lourdes. Et aujourd'hui, on ne cherche pas des victimes. Nous sommes là, les victimes sont là, visibles, palpables à Kisangani. Nous avons des cimetières, nous avons des maisons détruites à l'issue de cette guerre. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a des caissements des fonds, le fil commence à s'étirer de part et d'autre. Moi, je ne pense pas que cet argent soit géré par les gens qui sont dans des bureaux climatisés à Kinshasa pendant que c'est l'argent...
Mais déjà, l'argent de l'État qui a été distribué là-bas...
De la guerre et non, je ne partage
pas... Oui, mais héritier, le gouvernement avait disponibilisé 1 500 000. Dans la première tranche, c'était autour de 440 à peu près. Ben alors, comment ça s'est soldé là-bas? Est-ce qu'on l'a distribué, on l'a donné aux victimes?
Mais je vous dis, les victimes ont reçu peut-être 150 dollars par chacun. Mais quel genre de victimes?
Mais parce que ce montant-là, ça ne va rien représenter. Alors pourquoi ne pas créer un fonds pour des générations futures au lieu de percevoir 150 dollars?
Mais pour des générations futures, on ne refuse pas. Qui vont en bénéficier? Les victimes peut-être vont mourir.
Mais on va construire les écoles, on va construire des écoles, on va construire des hôpitaux, on va construire des centres de santé, ça et là. Pour tout le monde, pour toute la population. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont morts, parce qu'il y a même des morts indirectes que nous ne connaissons pas, qu'on ne sait pas identifier aujourd'hui.
Le gouvernement avait un programme de 100 jours. Moi et vous avions suivi comment est-ce que le gouvernement avait utilisé ces fonds. Qui vous dit qu'avec ces fonds-là qu'on a
des... On va bien l'utiliser. Merci beaucoup, héritier. Alors, Guy Kambouni, vous êtes avec nous, Guy?
Oui, Guy, vous êtes avec la radio. Voilà,
vous avez la parole. Quelle est votre réaction?
Oui, moi je me suis conformé à l'article 258 du Code civil congolais livre 3 qui donne l'injonction à celui qui est préjudicié qu'il puisse être rétabli dans ses droits. C'est faux que les pays voisins à louer à la RDC au préjudice subi doivent être conduits aux victimes. Donc les victimes des premiers liés,
est-ce que vous connaissez ces victimes?
Seraient victimes dans ces édifices qui ont été détruits. Donc on va conduire ces fonds aux victimes, et même l'État même lui-même est victime. Pas si on conduit à autre chose, ça sera un détournement pur et simple, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup. Alors, Godé, vous êtes à Kikwit. Bonjour, Godé.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole.
Oui, c'est Godet depuis la ville de Kikwit, précisément à Kikwit 3. Monsieur le journaliste, l'invité, le professeur vient de nous dire ils étaient partis à l'audience, mais l'a camouflé quelque part. Le professeur doit nous éclaircir, puisque la population congolaise est en train de vous suivre, c'est la radio Okapi. La raison pour laquelle ils n'ont pas déposé les preuves tangibles à la cour. À la cour, c'était dit à quoi? Puisque là, le professeur a camouflé un peu. Il nous éclaire le peuple congolais. Deuxième préoccupation, je pose à l'invité, le professeur, les Ougandais, ils ont versé la première règle à compte, et puis le second là qui était resté, il va verser ça quand? Quand est-ce qu'il va verser ça? Maintenant, les troisième préoccupation, l'argent versé. On a versé cet argent-là, M. J.R. Vous voyez que vous étiez allé donner cet argent-là aux familles qui étaient décédées là. Mais c'est vraiment... ce n'est pas normal. Vous voyez que les gens qui ont touché cet argent-là, peut-être ça peut être... Ce ne sont pas des gens qui étaient victimes à ce massacre-là. On a changé même des coups, vous voyez.
Il y a eu la bagarre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Godé, d'avoir appelé les Kikwit, et nous saluons toute la population de tous les Kikitois.
Alors, merci beaucoup parce qu'ils sont nombreux, hein, qui s'intéressent souvent à Parole aux Auditeurs, et à Arsène et les autres, et surtout au niveau du diocèse, de l'archevêché, pardon, du côté de l'archevêque. Voilà, donc, c'est au niveau de l'évêché, pardon. Voilà, donc, merci beaucoup. Merci à vous tous. Alors, professeur Tshibangoukalala, oui. Finalement, oui. Bon, il y a boire et à manger.
Il y a pas mal.
Il y a beaucoup de choses qui sont dites.
Oui.
Alors, comment réagissez-vous?
Oui. Je prends Godet, le dernier qui a parlé là-bas, qui pose le problème de tranche. Oui, Godet, la situation se présente comme ceci. Hein. L'arrêt de la Cour a condamné l'Ouganda à payer 325 millions de dollars, mais a donné des facilités de paiement à l'Ouganda pour que l'Ouganda ne puisse pas sortir du coup 325 millions de dollars. C'est quand même un trou important dans son budget national. Mm-hmm. Donc on a donné l'occasion à l'Ouganda de payer par tranche. Comme ça, ça ne va pas beaucoup peser sur ce budget. Et donc, il paye par an. Donc, on a payé au 1er septembre dernier, c'est le gouvernement, c'est la transparence.
Tout à fait.
Et c'est notre gouvernement qui nous a dit que je viens de recevoir 65 millions de dollars de la part de l'Ouganda. Et donc, il a payé au 1er septembre. Il faut attendre l'année prochaine, encore 60 millions, 65 millions. C'est sur 5 ans. C'est sur 5 ans. Donc, ça, c'est pour répondre à la question de Godet. Maintenant, de savoir la question des preuves, bon, ça c'est déjà dépassé. Le procès a déjà eu lieu. Bon, ceux qui ont défendu...
Juste pour l'histoire, pour ça.
Oui. Bon, quand vous lisez l'arrêt de la Cour dit que les preuves qui ont été déposées par les défenseurs des intérêts de la RDC, ce n'étaient pas des preuves suffisantes. Je crois que nous avions déjà fait une émission ici pour montrer la légèreté avec laquelle
le gouvernement
congolais de l'époque, hein, ça c'est l'ancien régime, qui a fait traîner les choses pendant 10 ans, et puis pendant 10 ans, tout s'efface. Hein. Mm-hmm. Les preuves s'effacent, on n'a pas pu prendre les choses au sérieux. D'ailleurs, on est allé à la Cour sans avoir bien monté le dossier. Bon, mais ça c'est du passé, pas vu là-dessus. Maintenant, la préoccupation pour nous aujourd'hui, Godet et tous les autres, puis la préoccupation des Claudia et des Calongi, qui comprennent la problématique, c'est de savoir, bon, on ne peut pas tout gagner.
Bon, on a quand même quelque chose, mais comment il faut les gérer?
On aurait pu avoir plus, mais enfin, nous avons aujourd'hui 325 millions de dollars qu'on va payer par tranche. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Il faut indemniser les victimes, ça va de soi, les victimes directes, comme dans la ville de Kisangani.
Qui ont reçu 150 dollars.
Nos compatriotes, mes chers amis, nous devons savoir qu'il n'y aura pas suffisamment d'argent pour ressusciter nos morts, les blessés. Vous allez donner à une famille, quelqu'un qui a perdu son mari, qui a perdu sa femme, qui a perdu sa... Combien d'argent vous allez lui donner? Pour faire ça. Ça ne peut être que de
alors
manière symbolique.
Alors vous qui
symbolique.
Avez plaidé cette affaire, il y a eu combien de victimes directes?
Les victimes directes, c'est très compliqué. La ville de Kisangani, parce que j'ai plaidé pour la ville de Kisangani, les archives sont là, on s'est basé essentiellement sur le rapport des Nations Unies. L'ONU avait envoyé des enquêteurs sur place. Je me rappelle même que l'un des enquêteurs qui faisait le travail a été trouvé pendu dans sa chambre.
Tout à fait.
Alors, le rapport que j'ai retrouvé et qui est là, qui existe, prévoit par exemple 769 morts.
Dans 769
morts.
Presque 800.
Oui, 800. Qui n'étaient pas identifiés. Le rapport n'identifie pas les personnes. Des écoles, presque 2000 écoles qui étaient endommagées ou détruites. Des maisons d'habitation, etc. Bon, ça, c'est le rapport des Nations Unies. Bon. Mais même la Cour, qui a vu ce rapport, parce qu'on l'avait déposé, on avait plaidé déjà en 2005 sur ce rapport, dit que bon, mais c'est vrai qu'il y a eu ce rapport, c'est bien, c'est un élément, mais on ne peut pas tabler seulement sur ce rapport pour dire voilà, qu'il y a eu autant de victimes, etc., pour nuancer les choses. Et c'est pour cette raison que la Cour a procédé par des montants forfaitaires, en disant, victimes directes, indirectes, tous ceux qui ont été torturés, tous ceux qui sont morts, etc., j'ai donné mon temps. Bon, pillage des richesses, autant. Bon, j'ai donné mon temps. Destruction des biens de l'État, etc. Autant. Donc, c'est un montant forfaitaire. J'ajoute encore une fois que c'est un montant octroyé à l'État congolais. C'est pas aux victimes, c'est à l'État congolais qui était au procès et qui a ces enfants qui sont morts, qui ont été blessés, etc., qui doit voir maintenant comment il peut répartir cet argent. les idées, ce sont des réflexions que moi je fais. Hein. Moi, je suis pas dans les propositions.
Tout à fait.
Je ne suis pas conseiller du gouvernement. Parce que quelqu'un a dit, oui, mais est-ce que le gouvernement, est-ce que j'ai déjà dit, c'est Claudia, est-ce que j'ai dit au gouvernement? Non. Claudia, moi je suis dans la rue comme vous.
Voilà.
Nous sommes des citoyens. Je ne suis pas,
conseiller du gouvernement. Juste une réflexion.
Nous faisons des réflexions.
Il peut vous ne pas prendre ça en considération.
Mais ce sont les décideurs politiques. S'ils trouvent que les idées que nous échangeons avec vous, Claudia, avec Kalonji, avec Gelungembo ici, qu'il y a ce sont des idées intéressantes. Ça dépend. Ce sont les décideurs politiques qui vont le faire. Mais je considère pour ma part qu'il ne faut pas consommer ce capital de 325 millions. Commencer à distribuer comme ça en dépenses et demain vous n'avez plus rien. Ça, ce n'est pas un État intelligent.
Parce que même si on fait les calculs, on a 1000 personnes à indemniser ou 1000 victimes. Oui. Si nous prenons à chaque famille 1000 dollars, ça fait 1 million de dollars. Donc nous sommes déjà au-delà des 325 millions. Donc c'est compliqué.
Non, donc ça dit que je ne veux mes propositions. Il ne faut pas consommer ce capital. Mm-hmm. Cet argent a une origine dramatique. C'est le sang du peuple congolais qui a coulé. C'est des souffrances à travers le pays. Vous ne pouvez pas imaginer le désordre qu'il y a eu dans le pays et nous en payons les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans l'Ituri aujourd'hui, les combats, les massacres au niveau de Djougou, au niveau de Irumu. Mm-hmm. C'est depuis cette époque-là, depuis que l'Ouganda a occupé cette partie du pays. On n'a pas rétabli complètement la paix dans cette région. Les conséquences continuent jusqu'à aujourd'hui. Et donc cet argent, qui est l'argent du sang, cet argent, on ne doit pas le consommer et il disparaît. Ah oui, on a distribué aux victimes et c'est fini. Non. Il faut que cet argent continue,
puisse continuer. C'est un fonds souverain.
C'est un fonds souverain. Il est souverain
parce que c'est l'argent de sang. Voilà. Il faut réparer. Il y a eu des victimes directes et indirectes.
Oui. Moi-même, je suis aussi une
nous victime. Tous, nous sommes victimes. Moi, parce que nous avons participé à l'effort de guerre.
Mais moi-même, j'ai été arrêté, mis en prison à cause de ce procès. Je suis aussi une victime. J'espère que...
Et nous rappelons que vous avez fait la prison par rapport à ça, à cette question. J'espère lorsque vous avez abordé cette question, à l'époque, nous sommes en
2015,
voilà.
J'espère que Kalonji, Claudia et Edmond, vous allez aussi réclamer.
Donc vous avez aussi droit
parce que moi aussi, je suis victime. Je dois aussi être indemnisé. Bon, mes chers frères...
Et moi, j'ai été aussi victime, disons, par de préjudice moral, parce que j'ai été aussi...
Oui, mes chers compatriotes, les propositions, les idées que nous partageons sont telles que... moi, j'ai une responsabilité morale pour avoir défendu, justement, notre pays dans cette affaire, avoir plaidé le cas des victimes, etc., etc. Il ne faut pas que cet argent disparaisse dans les distributions. Ça doit rester un fonds souverain qui va produire des intérêts. Les gestionnaires vont placer cet argent dans les banques, sur le marché financier, pour avoir suffisamment des intérêts, des moyens, pour que ce fonds perdure pendant des siècles.
Et quand on a les moyens de sa politique, on peut initier des projets de développement.
Et on permet à l'État d'avoir plusieurs sources de revenus. Il ne faut pas tout le temps demander, ministre du budget, ministre des finances, sortez l'argent à la banque centrale pour faire ceci. Mais on peut avoir aussi des fonds autonomes, indépendants de l'État, qui génèrent des intérêts et des ressources pour régler certains problèmes à caractère social pour le développement. Et donc, ce fonds doit rester pendant des années. On arrive à Lubumbashi, on arrive à Mbujimayi, on dit, écoutez, les travailleurs de l'Amiba ont souffert. Bon, l'hôpital de l'Amiba est là. Alors, faites-nous un budget. On doit réparer, on doit rénover, on doit équiper cet hôpital, on fait les choses. Et après les travaux, on met une plaquette sur le bâtiment en disant cet hôpital a été réhabilité, rénové avec les fonds venant du fonds tel. Et on le fait à travers le pays
chaque
et pendant
année,
des siècles, chaque année. Et l'argent est placé sous le contrôle des organismes de l'État qui sont chargés du contrôle.
La Cour des comptes,
Parlement, l'IGF. Et ce fonds doit faire des rapports annuels pour qu'on sache, messieurs, vous gérez le fonds, comment vous utilisez les bénéfices, les intérêts générés par ce fonds, dans l'intérêt du pays.
Professeur Tshibangu Kalala, merci de nous avoir honoré de votre présence et merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission et vous qui nous avez suivis religieusement à travers vos maisons. Voilà, donc nous vous retrouvons demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. Nous parlerons également de rapport qui n'est pas encore arrivé, de l'IGF, sur la gestion des fonds alloués à la présidence de la République. À très bientôt.